au congrès des assemblées de Dieu à Montluçon, on a vraiment été béni, mais un jour il a fait beau, un jour il a fait froid. Et le dernier jour, j'y ai eu droit. Voilà, je vous parlerai en détail, plus en détail, dimanche. Mais il y avait 607 participants, au plus fort de la participation. Et le vendredi matin, à la... les internautes connectés pour visualiser la remise des... on va dire ça comme ça, des accréditations pour les nouveaux ouvriers. Il y avait 860 connectés en même temps, à peu près. Voilà. Il y a eu un souci de retransmission, mais c'était lié au réseau internet du lieu où se trouvait le congrès. Et donc ça n'a pas pu être retransmis en direct. Le mardi, le mercredi matin, il y a eu un souci. Le jeudi, c'était impeccable. Néanmoins, vous pouvez regarder les cultes en différé, puisque tout est enregistré et consultable sur le site de lunadf.fr. Et vous verrez vous entendrez les messages que ce frère, qui parle parfaitement le français, venant des États-Unis, a apporté, vraiment des paroles de Dieu pour nous, paroles de connaissance et paroles de prophétie pour notre pays. Et ça, c'est quelque chose d'important. Comme je savais qu'ils étaient très, très sensibles et en même temps très férus d'histoire des protestants en France, des huguenots, on leur avait offert, il y avait à peu près 8 livres sur l'histoire des huguenots que l'on trouve dans une librairie sur Nîmes. Et ça les a profondément touchés, ces livres-là, ils ne les avaient pas. Et le dernier soir, l'épouse de ce frère nous disait en pleurant que eux ont été profondément touchés de ce que les chrétiens ici ont souffert à cause de leur foi. Et elle nous disait textuellement, le sang des martyrs crie encore et appelle la bénédiction de Dieu sur votre pays. Et elle disait cela en pleurant, c'était très touchant. Parce que je me suis dit, c'est vrai que nous, c'est maintenant de notre histoire, même si ce n'est pas notre histoire directe, en tant que descendants des protestants, je ne pense pas que parmi nous, il y en ait beaucoup, des descendants directs des protestants. Voilà. Et mercredi, on a amené le frère polynésien au musée du désert. Et il n'y avait pas beaucoup de monde, donc on a eu une visite presque individualisée, faite par cette dame. Et le frère était très, très intéressé. Et à la fin, cette dame me dit, vous pouvez m'expliquer pourquoi parce qu'on reçoit beaucoup de pentecôtistes venant visiter le musée du désert. Pourquoi vous, les évangéliques et les pentecôtistes en particulier, vous êtes vraiment intéressés par cette histoire? Alors j'ai compris, je lui ai dit, écoutez, c'est vrai que quasiment parmi nous, il n'y a pas de descendants directs des protestants. Néanmoins, spirituellement, on est des descendants de ces hommes et de ces femmes qui ont tenu bon, qui ont résisté. Et qui, malgré les persécutions, eh bien, ont fait en sorte que notre pays n'abandonne pas, ne baisse pas les bras, malgré la difficulté. Ça a été difficile. Pour eux, ils ont vécu des choses terribles, notamment l'enlèvement des enfants, pour que les enfants soient éduqués par des familles catholiques. Les femmes étaient envoyées à la tour de Constance, les hommes étaient envoyés aux galères quand ils n'étaient pas exécutés sur place. Et les galères à vie, rien que pour avoir assisté à un culte. Et sur le comptoir, donc, il y avait ce que j'ai pris pour des petites pièces. J'en ai pris une, je vous la montrerai dimanche. En fait, ce n'est pas des pièces, c'est des jetons pour participer au culte. Parce qu'en ce temps-là, qui est qui? Y a-t-il pas des espions parmi nous? Parce que là, c'était dangereux d'être dénoncé à cause des dragonnades, etc. Et donc... pour participer au culte, il fallait avoir reçu du pasteur le jeton, puisqu'il y avait un culte avec Sainte-Seine une fois par an. Et donc, il fallait avoir ce jeton. Et sur celui, parce qu'il y avait plusieurs jetons suivant les régions de France, et sur celui que nous avons acheté, qui est le jeton des cultes du côté de Montauban, il y a marqué dessus « Ne crains point, petit troupeau ». C'est très petit. Voilà, donc, je lui ai dit « Voilà pourquoi nous venons ». C'est notre histoire spirituelle. Aujourd'hui, nous, on a un défi à relever dans notre pays qui a commis des erreurs en faisant fuir les croyants. Et en même temps, en les faisant fuir, ils ont commis plusieurs niveaux d'erreurs. C'est qu'il y avait de la noblesse parmi les croyants. Il y avait beaucoup d'économies, il y avait la finance, il y avait le textile, il y avait l'horlogerie. Et tout ça est parti. C'est pour ça que la Suisse est devenue une place financière, est reconnue mondialement au niveau de l'horlogerie, mais tout cela était dans les Cévennes. C'était notre patrimoine. Et la France, en voulant faire fuir des croyants, a fait fuir des compétences inimaginables, qui a enrichi le Nouveau Monde, les États-Unis, et qui a enrichi les pays d'alentour. Et M. Bovaire nous le disait régulièrement. Il dit, moi, je suis descendant de protestants des Cévennes qui ont fui en Suisse, et en Suisse, il n'y avait que des fermiers. Et aujourd'hui, la Suisse, c'est tout sauf, à part le lait suisse avec le chocolat, c'est tout sauf des fermiers. C'est l'industrie pharmaceutique, c'est l'industrie horlogère, c'est une place financière, c'est même pas la peine d'en parler, et tout cela était chez nous. Ce qui veut dire aussi que c'était l'élite du pays qui était protestant, qui était croyant, et qui ne voulait pas se laisser diriger par des affirmations qui n'avaient plus de base biblique. Eh bien aujourd'hui, c'est notre responsabilité de maintenir au niveau eh bien ce que d'autres avant nous ont vécu et de passer le relais à ce que d'autres après nous vivront. Alors on va aller dans le livre du prophète Ésaïe, chapitre 11. Ésaïe, chapitre 11. Puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe, et un rejeton naîtra de ses racines. L'esprit de l'Éternel reposera sur lui, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Amen. Parole prophétique. Et on en parlera le moment venu, mais je me suis acheté un livre au musée du désert sur. C'est une étude faite sur le prophétisme au temps des persécutions. C'est très intéressant parce que c'est une analyse qui est faite. Après, on est d'accord avec les choses affirmées ou plus ou moins. Néanmoins, c'est une analyse qui est faite. Il y a eu vraiment des paroles de Dieu. Il y a aussi des exagérations. Il y a eu des comportements un petit peu fanatiques. C'est d'ailleurs à cette période-là qu'est né le terme fanatique. Mais ce n'est pas parce qu'il y a eu des exagérations qu'il n'y a pas eu l'Esprit de Dieu qui a parlé. Voilà. Et véritablement, des choses se sont passées. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Un rameau sortira du tronc d'Ésaïe, un rejeton naîtra de ses racines, l'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. Et l'Esprit de Dieu qui reposait sur Jésus nous a été donné. Nous a été donné. Et de la même manière que le Seigneur parlait, nous parlons. De la même manière dont le Seigneur agissait, nous agissons. Un esprit de sagesse et d'intelligence. On n'est pas là avec les charismes de l'esprit, quoique. Quoique. On a, à mon sens, on a un peu trop réduit l'onction de l'esprit, la vie de l'esprit, au charisme de l'esprit. Esprit de sagesse et d'intelligence. J'allais dire, si ce n'est pas un charisme, ça. Qu'est-ce que c'est que d'être doué de sagesse et d'intelligence? Cette sagesse qui vient de l'Esprit de Dieu signifie ceci, c'est de l'habileté, de l'adresse, de la prudence. Et que l'on retrouve chez Betsaléel et Oliab, les artisans mentionnés dans le livre de l'Exode, auxquels Dieu avait donné de la sagesse pour faire les ustensiles de la maison de Dieu. De l'habileté, de la prudence. Ça vient de l'Esprit de Dieu. Pourquoi ne demanderions-nous pas au Seigneur de nous donner par son esprit de la sagesse? De cette sagesse-là, de l'habileté, qui va jusqu'au bout des doigts. Jusqu'au bout des doigts. Parfois, nous prions, quand on va se faire opérer, en général, c'est là qu'on prie pour les médecins. Seigneur, bénis-les. Parce qu'ils vont s'occuper de nous. Alors, Seigneur, bénis-les. Donne-leur de la compétence, qu'ils ne se trompent pas avec le scalpel, etc. Et après, on bénit Dieu parce qu'ils nous ont bien opérés. Voilà. Bénis les mains qui ont préparé ce repas. Là, c'est la formule consacrée. Mais la sagesse de Dieu va jusqu'à l'habileté. jusqu'à l'adresse au bout des doigts. Et si les uns et les autres nous sommes devant des projets qui sont particulièrement pour l'œuvre de Dieu, pourquoi ne demanderions-nous pas la sagesse de Dieu pour arriver à réussir l'ouvrage, à faire la maison de Dieu, à faire l'œuvre de Dieu, à être reconnus comme des hommes et des femmes qui ont de l'adresse, qui ont de l'habileté, pas simplement de la sagesse en réflexion ou en parole, c'est un ensemble, on ne peut pas découper les choses. Salomon demanda de la sagesse et de l'intelligence pour conduire le peuple. Et quand on lit l'histoire de Salomon, heureusement que Dieu la lui a donnée, parce qu'il s'est retrouvé dans des situations impossibles à gérer humainement parlant. Mais Dieu lui avait donné de la sagesse et de l'intelligence. Et il dira par l'apôtre Paul à chacune et à chacun d'entre nous, conduisez-vous avec sagesse. Et cela, quand on remonte le chemin de cette sagesse que nous recevons, que nous demandons, c'est l'Esprit de Dieu. Dieu est sage. Quand il crée l'univers, c'est sage. L'univers dans son ensemble, la terre, mais c'est fait avec beaucoup de sagesse. Il y a beaucoup d'habileté. Quand il crée l'être humain, ben c'est sage, il y a beaucoup d'habileté. Alors je vais prendre des exemples avec lesquels vous souriez tout le temps, mais ce n'est pas pour sourire. Quand Dieu crée la femme, c'est avec beaucoup de sagesse. Il y a beaucoup d'habileté. Il y a beaucoup de... comment dire, de finesse, c'est ça. Et à tous les niveaux, hein. Il y a de la finesse. Quand Dieu crée la femme, il la crée par rapport à l'homme qu'il vient de créer et qu'il a fait à son image, sans dire que la femme ne l'est pas. Mais il a créé l'homme et la femme à son image. Et il y a de l'habileté, il y a de la finesse, il y a de la sagesse. Il y a quelque chose d'extraordinaire qui fera que l'homme et la femme seront toujours différents de tout le reste de la création. Il y a en nous quelque chose de Dieu. Et il nous dit, conduisez-vous avec sagesse. Dieu ne nous a pas donné la vie. Dieu ne nous a pas créés à son image pour vivre sans sa sagesse et avec la nôtre, sans son intelligence et avec la nôtre, parce que pour lui, notre intelligence, c'est de la folie. Et s'il nous donne sa sagesse et son intelligence, alors nous allons faire la différence. La sagesse d'en haut, dira Jacques, et on va aller le voir dans la partie concrète de ce qu'elle est. La sagesse d'en haut. Jacques, chapitre 3. Verset 17. La sagesse d'en haut est premièrement pure, donc sans mélange. Ensuite, pacifique. Et un homme, une femme inspirée, recherche la paix, produit la paix. Et quand il arrive dans un contexte où elle n'est pas, ou c'est lui qui ne peut pas rester, ou c'est la paix qui va s'installer, c'est la discorde qui, elle, ne peut pas rester. Parce que c'est comme là où le Seigneur arrivait. Il y avait la discorde, mais au bout d'un moment, tout se calmait. Ceux qui n'avaient plus leur place se retiraient et restaient les autres qui avaient besoin de la grâce de Dieu. Elle est modérée. Ça, c'est quelque chose qui est important, avoir de la modération. Ça balaye les extrêmes, les exagérations. Dans un sens comme dans l'autre, on peut exagérer dans le sens de la liberté, je fais ce que je veux, on peut exagérer dans le sens de la spiritualité, on spiritualise tout. Et la sagesse de Dieu est parfaitement modérée, parfaitement modérée. Elle est conciliante. Ah, ça c'est quelque chose qui est important. Dieu a créé la pluralité. Alors comment des gens et des personnes différentes peuvent-elles être unies s'il n'y a pas d'esprit de conciliation à un moment donné, s'il n'y a pas des efforts qui sont faits? On est tous différents. Et en même temps, on est tous complémentaires. Et dans l'œuvre de Dieu, il y a cette action-là qui relève de la volonté de Dieu. Il a voulu qu'on soit différents, non pas pour que nous nous séparions les uns des autres, que nous nous affrontions les uns des autres sur la base de nos différences, mais pour que nous soyons complémentaires les uns des autres et que chacun mette au service des autres le don qu'il a reçu. La faute de la conciliation, pleine de miséricorde, c'est la sagesse de Dieu. Et de bons fruits, parce que c'est du concret. Ce n'est pas une notion abstraite, la sagesse, dans ma vie de tous les jours, c'est concret, la manière dont j'agis, je parle, je fais les choses, exempte de duplicité et d'hypocrisie. C'est la sagesse de Dieu. Et le fruit de la justice est semé dans la paix par ceux qui recherchent la paix. Et le fruit de la justice, c'est le pardon. La justice de Dieu à la croix a donné un seul fruit, le pardon. Et cela, c'est le résultat de la sagesse de Dieu dans nos vies. C'est quelque chose d'extraordinaire. Un esprit d'intelligence, dans le sens compréhension, discernement. Alors, qu'est-ce que j'ai à comprendre que je ne comprenais pas? Et ce n'est pas les formules mathématiques, parce qu'on y arrive, plus ou moins. Et quand vous avez appris et compris un théorème, rassurez-vous, il y a celui qui vient après, qu'il va falloir comprendre et apprendre, et puis il y en a toujours un autre. Il ne s'agit pas de cette intelligence-là au niveau intellectuel, au niveau scientifique. On est dans la dimension de l'esprit. C'est l'intelligence spirituelle. Comprendre la volonté de Dieu. Discerner la volonté de Dieu. Et là, ce n'est pas ceux qui ont bac plus X qui sont plus qualifiés que les autres. Puisque dans le domaine spirituel, il y a une base d'égalité. Une base d'égalité. Ne comprenez-vous pas que rien de ce qui vient du dehors et qui entre n'a vertu à vous souiller, c'est ce qui sort qui souille. Et là, on n'a pas besoin d'avoir fait l'ENA pour le comprendre, on a besoin d'être à l'écoute de la parole de Dieu. Vous ne comprenez pas les Écritures, dira-t-il, à des hommes instruits, intelligents, mais les Écritures ne s'appréhendent pas avec l'intellect, les Écritures s'appréhendent avec le cœur. Comprenez la volonté de Dieu. Faites l'effort de comprendre la volonté de Dieu et le discernement des esprits alors. Heureusement que c'est une faculté que Dieu nous donne parce que les plus intelligents se font tromper par ceux qui pratiquent les choses occultes. Et l'homme spirituel arrivera jusqu'à juger de tout. Je sais ce qui est bon, ce qui ne l'est pas. Je sais ce qui est nécessaire et ce qui est secondaire. Je sais l'importance des choses, c'est pourquoi je ne vais rien imposer, si ce n'est que je ne m'impose à moi-même certaines choses, mais je n'impose rien aux autres. Et là, il y a beaucoup d'intelligence. Un esprit de conseil. Aujourd'hui, il y a des cabinets de conseil pour tout. Même vous avez le conseil matrimonial, etc., etc. Là, il s'agit de bon sens. J'oserais dire, avec Dieu, on n'a pas besoin de cabinet de conseil. Sauf peut-être dans les domaines techniques ou scientifiques, où là on a besoin de conseils de la part de gens qui connaissent ces domaines-là. Mais dans le domaine de la vie, au niveau d'un couple, au niveau d'un foyer, au niveau d'une famille, au niveau d'une église, normalement on n'aurait pas besoin de conseils parce que l'esprit de Dieu est un esprit de bon sens. C'est ça le conseil, le bon sens. Du coup, Dieu était en avance sur ceux ou celui qui a dit que nous avons cinq sens plus l'autre, qui est le bon sens. Et celui-là, il vient déjà de Dieu, par l'Esprit de Dieu. Avoir du bon sens, c'est mentionné dans Matthieu 6, pour aider son prochain, c'est du bon sens. Pour prier, et prier avec bon sens, quand vous priez, ne priez pas comme les autres qui se mettent debout au coin de rue, mais ayez un peu de bon sens. Quand tu jeûnes, mais tu parfumes ta tête, tu ne te montres pas dans un état pitoyable, parce que les autres vont conclure que quand on jeûne, alors on est dans cet état-là, ce n'est pas enviable de jeûner. Du coup, jeûner devient quelque chose de difficile, alors que ce n'est pas quelque chose de difficile. Quand tu pries, bien, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Et on a envie de dire, mais c'est évident. Finalement, c'est évident. On t'a posé des questions, Seigneur, et tes réponses, c'est évident. C'est évident. Voilà. Que dans l'Église, tout se fasse avec ordre et bienséance. Et il s'agit même là de la pratique des dons spirituels mentionnés dans la fin du chapitre 14 des Corinthiens. Mais que tout se fasse avec ordre et bienséance, c'est quand même incroyable que l'Esprit de Dieu doive dire à l'église primitive qui est sous l'onction de l'esprit. S'il y en a une qui est sous l'onction de l'esprit dans l'histoire, c'est bien l'église primitive. Eh bien, dans cette église primitive, quand on fait un zoom sur l'église de Corinthe, on se dit « Oh, heureusement que, Seigneur, tu as dit que dans l'attente où ils sont de la manifestation de ton retour, il ne leur manque aucun don. » Mais que font-ils de ces dons ? Que tout se fasse avec ordre et bienséance, mais c'est honteux pour le Seigneur de devoir dire, de devoir inspirer à l'apôtre d'écrire ce qui pour nous est le chapitre 11 des Corinthiens. On est quelques années après la croix, et quelques années après la croix, au moment de prendre la Sainte Cène, en mémoire de lui, ils sont ivres. N'avez-vous pas honte ? Vous faites honte aux hommes, vous faites honte au Seigneur, vous faites honte à l'Église. C'est pour cela qu'il y a parmi vous, pam, 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 c'est tombé à différents moments. Mais est-ce qu'on a besoin des autres pour nous reprendre ? Mais non, on a l'esprit de bon sens. Que dois-je faire dans ce cas de figure, dans cette situation dans laquelle je suis ? Faites à partir du bon sens. C'est même un slogan, le bon sens près de chez vous. Je ne sais plus qui c'est qui a sorti ça. Et nous l'avons en nous, le bon sens. Un esprit de force. Et il ne s'agit pas là de force pour soulever des cailloux, mais d'une force intérieure. Quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Et on a vu devant des obstacles majeurs, des gringalets, tenir ferme. On a vu des montagnes s'écrouler. Voilà. Je me rappelle l'anecdote de mon père, il me racontait. Lui faisait partie, il était un peu plus petit que moi. Il me dit, à l'armée, quand on a été incorporé, c'était 2 ans à l'époque, il me dit, on était en tringlette à l'infirmerie pour la grosse piqûre dans laquelle il y avait tout, qui fait qu'après tout le monde était malade. Il me dit, devant moi, il y avait des joueurs de rugby. Il me dit, quand ils ont vu la piqûre, ploup. Voilà. Non, c'est un peu caricatural, hein. Mais c'est pour dire que c'est pas la montagne de muscles qui fait que devant la difficulté, on est plus fort, parce qu'on a été surpris de voir des gens que l'on pensait forts s'écrouler. Et on a été surpris aussi de voir des gens pour lesquels on s'est dit, ils ne vont pas tenir. Ils ont tenu haut la main et sont traversés des difficultés. Job est rempli de force, ce qui ne l'empêche pas de maudire le jour de sa naissance, parce qu'il est conscient de la réalité de ce qui lui tombe dessus, ce qui ne l'empêche pas de demander la mort. Mais il a une force spirituelle. Je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Quand Job se met à genoux, c'est parce que lui le décide. Voilà. L'esprit, c'est le souffle de Dieu. C'est le roi. Cet esprit-là, l'esprit de l'Éternel, reposera sur lui. Prenons conscience de la grâce qui est la nôtre, de ce que l'esprit de l'Éternel repose sur nous. Et il donnera de la connaissance. Et cette connaissance, c'est en fait le savoir. Ces convictions qui font que vous tenez bon. Je sais que mon Rédempteur est vivant. Ce n'est pas un savoir que vous avez appris parce que vous avez appris par cœur des leçons ou des formules. C'est ce que vous savez, parce que l'Esprit de Dieu vous l'a révélé. Je sais que tu es mon Père qui est dans le ciel. Je le sais. C'est un savoir qui ne se communique pas, parce que ce n'est pas le savoir des hommes que l'on met par écrit, vous apprenez, vous en savez autant que l'autre. Et si pour peu que vous vous mettiez à travailler, vous en saurez un peu plus que l'autre. Ça n'a rien à voir. C'est le savoir qui vient de Dieu, la révélation de Dieu. Je sais que tu as créé le ciel et la terre, je le sais. Je sais que mon nom est inscrit dans le livre de vie. Je le sais. Je sais que l'Éternel est grand. Je sais ce que j'ai vu. J'ai vu la grâce de Dieu, j'ai vu la bénédiction de Dieu, j'ai vu la fidélité de Dieu. Je le sais que le Seigneur est avec moi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Je le sais. C'est l'Esprit de Dieu qui nous donne tout cela. Et peut-être que prochainement, on ouvrira la parole sur des « je sais ». On a médité sur des « je suis ». Et ce serait bien peut-être de méditer sur des « je sais ». Voilà. Dans le livre, toujours dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 42, il est dit « J'ai mis mon esprit sur lui ». sur mon serviteur. Ésaïe 42. Voici mon serviteur que je soutiendrai, mon élu en qui mon âme prend plaisir. J'ai mis mon esprit sur lui. Il s'agit évidemment du Seigneur, mais il s'agit aussi de nous. J'ai mis mon esprit sur lui. Il y a une relation entre Dieu et nous qui est spirituelle. Elle n'est pas visible. Le jour où la relation sera visible, c'est lorsque nous le verrons tel qu'il est. Et ça, c'est à venir. Ce n'est pas une relation qui est physique, parce que Dieu est esprit. Et quand nous serons comme lui, nous échapperons aux limites de ce corps physique. Du coup, n'attendons pas toujours d'avoir des sensations visuelles ou physiques pour conclure que Dieu est là. Il est là. Et la relation qu'il a voulu établir avec nous, elle est spirituelle. Je sais que tu es là. Je sens ta présence, non pas parce que j'ai chaud, parce que j'ai froid, parce que je tremble, parce que je sens des frissons dans le dos, parce que suivant votre sensibilité, celui d'à côté ne va rien sentir de tout et il sera tout autant convaincu que Dieu est là. C'est une relation d'ordre spirituel. J'ai mis mon esprit sur lui. Voilà. Siméon et Anne étaient dépositaires de l'onction de l'Esprit de Dieu. Et quand il a vu Jésus, il a dit, mes yeux ont vu ton salut. Voilà. Et Anne prophétisera et parlera. Voilà. Et on va terminer au chapitre 61 d'Ésaïe. Comme la finalité de cet esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence, de conseil, de force, de connaissance qui est sur nous. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi. Jésus va évidemment prendre ces paroles parce qu'elles le concernent au premier degré. Je pense qu'elles nous concernent à un autre degré. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi. L'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Et nous sommes envoyés par le Seigneur pour faire ce travail-là. Cette œuvre-là, jusqu'aux extrémités de la terre. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Vous imposerez les mains aux malades. Pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. Pour publier une année de grâce de l'Éternel. C'est le message que le Seigneur a confié à l'Église. C'est le message que le Seigneur a confié à ses serviteurs. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur nous. Chacune et chacun d'entre nous. Pour publier une année de grâce de l'Éternel, un jour de vengeance de notre Dieu. Et avant le jour de vengeance, c'est l'année de grâce. Et aujourd'hui, c'est le temps de la grâce. Et c'est ce que nous devons mettre en avant. Pour consoler tous les affligés, pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle des térébintes de la justice. Une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Qu'est-ce que tu nous dis, Seigneur, là? Tous ceux qui étaient voués à la destruction, abattus, physiquement et moralement et peut-être même spirituellement, tu leur as redonné la vie. Et des racines qui restent, parce que la vie passe, l'arbre repart. On va les appeler des térébintes de la justice. Et juste en terminant, vous dire et se rappeler que le térébinthe a été pris dans la parole de Dieu comme un arbre sous lequel la justice de Dieu se rendait. Et on sait très bien que du térébinthe dont on cisaille l'écorce, on récupère la térébenthine. Du coup, c'est simplement pour dire que quand bien même nous serions abîmés, de nous, il va sortir quelque chose qui va encore faire du bien. L'ange de l'Éternel s'assit sous le térébinthe d'Ophra. Et il va parler. La tête d'Absalom a été prise dans les branches entrelacées d'un grand térébinthe quand il s'est révolté. Il est passé avec son mulet, imaginez la scène, sous le térébinthe, et à cause de son abondante chevelure, tac, et il s'est retrouvé comme parfois on le voit dans des films, le cheval a continué et lui est resté pendu. Touché pas par terre, pris par la tignasse. Et la tête d'Absalom a été prise là. Le corps de Saül a été enterré sous le térébinthe. Voilà. Eh bien, il est dit dans Ésaïe 6, et on va terminer là. Ésaïe 6, 13, la deuxième partie du verset. Mais comme le térébinthe et le chêne conservent leur tronc quand ils sont abattus, une sainte postérité renaîtra de ce peuple. Amen. Et quand bien même des choses nous auraient abattus, le Seigneur a pris comme exemple le térébinthe. Ça nous parle moins que le chêne. Mais ici, le chêne, on connaît. C'est quand on dit de quelqu'un, tu es fort comme un chêne. Il y a la force, il y a la dureté du chêne, mais il y a la durabilité du chêne. Vous voyez des arbres qui sont comme ça, vous dites, ils étaient là bien avant nos aléas de l'histoire. Hein, et ils ont vu l'histoire. Et ils ont traversé l'histoire. Eh bien, le chrétien, quand bien même il serait abattu, il conserve leur tronc. Et une postérité renaîtra de ce peuple. La vie va revenir là où la mort avait voulu frapper. Et même là où elle avait frappé. Puisqu'ils étaient abattus. Seulement l'Esprit de Dieu est passé par là. Voilà. As-tu vu, fils de l'homme, cette vallée remplie d'ossements ? Crois-tu que ? Eh bien oui. Et à la parole de Dieu, fils de l'homme, prophétise. Parle de la part de Dieu. Alors cette parole que Dieu nous a donnée, c'est la parole qui a créé le monde. Par la parole, il a créé le monde. C'est la parole qui est esprit et vie. C'est la parole qui peut tout. Et que Dieu nous donne de pouvoir la recevoir avec sagesse, avec intelligence, avec l'utiliser avec le conseil de Dieu, avoir ce savoir de Dieu. On sait les choses qui nous concernent, on sait les choses qui concernent les autres. Et quand quelqu'un viendra vous dire « Oh, mais ceci, cela, le reste », non, moi je sais que Dieu m'a parlé. C'est ma vie, contre toute attente. Alors on va prendre le temps de prier. On va prendre le temps de prier pour l'Église. Pour nous, pour ceux qui viennent, ceux qui reviennent dans la maison de Dieu. On va prier pour qu'il y ait des conversions, des baptêmes d'eau, des baptêmes de l'Esprit, parce que ça, c'est important. On va prier pour ceux qui ont besoin de la grâce de Dieu. On va prier pour notre sœur Laure. Ce soir, Jean-Luc et Sandrine sont partis à Toulouse pour la voir, mais apparemment, ce soir, ils n'auraient pas réussi à la voir parce qu'elle souffre. Donc, on va prier pour elle, que le Seigneur la bénisse. Est-ce qu'il y aurait d'autres sujets de prière ? On va prier pour notre sœur Maggie aussi, qui a besoin de la grâce de Dieu, mais le térébinthe et le chêne, ça tient.